Salam alaikum wa alaikum, salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de La Tay, premier épisode. Aujourd'hui, c'est pas un épisode banal qu'on va vous proposer, enfin c'est pas une discussion en fait. Avec Kauter, on est allé à la rencontre de Mounia Medour, Lina Koudri et Shirin Boutella. Mounia Medour a réalisé un film qui s'appelle Papicha, qui sort en salle le 9 octobre et qui représentera l'Algérie aux Oscars. Le film raconte l'histoire de Nejma, jeune étudiante qui est fan de mode et qui va décider de faire un défilé de mode dans son université pendant la décennie noire en Algérie.
نديرو حجاب نقعدو في الدار سي صا البنات حابه ندير ان ديفيلي vous allez défiler pour moi.
La décennie noire, c'est une période qui est très peu connue en dehors des Algériens. C'est une guerre civile qui a eu lieu dans les années 90 du coup entre le gouvernement algérien et les groupes islamistes. Et c'est une période où il y a un peu une restriction des libertés, une censure, beaucoup de peur aussi, énormément d'attentats. Et c'est une période qui a un peu traumatisé les générations en fait, qui sont juste au-dessus de nous, parce qu'on parle vraiment d'événements qui ont lieu il y a 20 ans. Donc voilà, et c'est très intéressant aussi qu'un film raconte une histoire qui se passe à ce moment-là, parce que c'est quelque chose que personnellement j'ai très rarement vu. Il y a peu de choses qui ont été faites sur cette époque-là et je suis très contente en fait de voir juste une représentation parmi des millions de cette époque-là. Et je pense que ce film en fait à long terme il va sûrement s'inscrire dans un devoir de mémoire. Du coup, avec Kauter, on a eu la possibilité de voir le film avant sa sortie et comment vous dire que bah clairement on était bouleversés. On a trouvé la représentation très juste, la véracité des propos par rapport à ce que moi j'ai pu entendre dans mon enfance par rapport à cette période respectée. Et les filles avaient une énergie de dingue et on était super heureuses de pouvoir retrouver la même énergie le jour où on les a rencontrées dans leur hôtel pour faire l'interview. Elles dégageaient en fait un truc de ouf, genre un peu courir partout, rigoler, crier. Et en fait, je trouvais ça trop beau. Je les ai trouvées très belles. Je les ai trouvées super jolies. Et je les remercie d'avoir accepté notre interview. Donc merci les filles et bonne écoute. Du coup, Mounia, tu es réalisatrice. Tu es née à Moscou, c'est ça? Et tu as grandi en Algérie, tu as fait tes études en France. Et donc t'as...
Pas schizo du tout.
Un qui a fait trois pays, genre on comprend pas.
Et puis pas n'importe lesquels.
Ouais. Pourquoi la Russie? Ta maman, elle est russe,
elle
c'est ça?
Elle se pose la question, elle sait pas.
En fait, moi, oui, ma maman est russe. Tout a démarré en 78 lorsque mon père a, a intégré une école de cinéma russe en Russie, à Moscou. Donc, c'est une école qui s'appelle le Geek. Donc il a rencontré une belle blonde aux yeux bleus, qui n'est pas moi, évidemment. Et donc il l'a épousée et je suis née et j'ai vécu donc 3 ans en Russie. Et après, on a déménagé en Algérie. Et donc en Algérie et à Alger, j'ai vécu la plus grosse partie de ma vie.
Du coup, après tes études, tu réalises plusieurs documentaires et là, tu as ton premier film de fiction, Papicha. Oui. Qui va représenter l'Algérie aux Oscars et qui sort en salle le 9 octobre. On retrouve notamment à l'affiche Lina et Shirin. Lina, moi, je t'ai découvert sur l'interview Click.
Ouais.
C'est là que je t'ai vue quand t'as sorti Les Bienheureux. Et en fait, je me suis trop reconnue en toi, déjà parce qu'on porte le même prénom. Parce que j'ai vu que t'étais surveillante dans le 93. Pour moi, j'ai grandi dans le 93. En plus, on est algérienne, donc ouais, j'étais vraiment 7-9. Excellent, genre de goat. Et Shirin, du coup, qu'on a découvert. Moi, en fait, je t'ai découvert à l'écran, pas plus dans le film. Et en fait, donc, Kauter et moi, on est partis voir le film et on était. On a fini la séance, genre vraiment.
On pleure.
Mais vraiment. Ouais.
Pendant combien de temps, c'est ça le truc.
Ouais.
Maintenant, c'est ça le game, c'est de se dire combien de temps. Est-ce que tu as battu le record? Est-ce que...
Franchement, je crois que j'ai battu mon record.
Hein. Ouais.
Genre 15 bonnes minutes de space.
J'arrivais pas
moment...
à l'arrêter.
Ah, ouais, vraiment, c'est à la fou, fin.
À la toute fin, au générique.
Ouais. J'ai.
Explosion d'émotion, ouais.
Ouais, c'est ça. J'ai juste explosé. Genre, j'ai crié, je crois même. Genre, j'étais grave crispée.
Ouais.
Après,
ouais.
J'ai repris mon souffle. On se calme, faut qu'on parte.
Ouais, je crois qu'on est sorti de la salle, on n'a pas parlé pendant genre 15-20 minutes.
Ouais.
On tellement pouvait même pas rentrer en métro, on a pris un Uber. mais non, en fait, je pense que ouais, ce film, pour nous en tout cas, il était hyper important parce qu'il montre en fait l'importance du fait d'avoir tu vois, des personnes racisées devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Mmh. Et pour le coup, on le ressent vraiment. Ouais. Parce que.
Il y a un parfait équilibre dans les personnages. Moi, je me suis parfaitement retrouvée dans le rôle principal parce que moi aussi, je suis passionnée par la mode et je suis née au Maroc. Et je me dis, si je serais restée au Maroc et qu'il y aurait eu le même contexte, en fait, je sais pas, j'ai vécu l'histoire à la place du personnage. Je crois que c'est pour ça que j'ai explosé à la fin.
Voilà. Je t'ai identifiée
parfaitement.
Ouais.
C'est exactement ça. Du coup, ce personnage de Najma, il s'est construit comment? Est-ce que Lina a apporté aussi sa touche dedans?
Oui, bien sûr. C'est vrai que dans un premier temps, un réalisateur donc écrit un scénario. Il y a eu tout un travail au niveau du scénario pendant quelques années où j'ai pu mettre sur papier tout ce que moi j'avais vécu, tout ce que j'avais vu. Donc il y avait déjà une première base. Et après, bien évidemment, avec les comédiennes et avec Lina en l'occurrence en particulier, puisqu'on a travaillé ensemble longtemps et sur, je ne sais plus, 3 ans au moins, on a travaillé sur la caractérisation du personnage, comment l'incarner au mieux. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours, on s'est échangé beaucoup d'images, non seulement des décors, mais aussi des costumes, des décors, des créations, quel type de tenue, quel type de robe elle pourrait créer. Donc il y a eu tout un travail comme ça d'échange, de collecte d'informations et de détails qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Lina a pris des cours de couture, des cours de
dessin, enfin
de dessin.
Mais ouais, on a construit. Merci madame.
Merci.
Vous attendez.
Non, mais on a construit ensemble, puisque oui, Mounia, elle a écrit une base hyper solide et après, elle m'a permis de lui proposer plein de choses. Et après, à partir de là, on a beaucoup réfléchi qui était Najma en fait. Parce qu'on savait que c'était une femme forte qui était passionnée de mode, qui voulait. Enfin, on connaissait la base et après, on a pas cessé d'enrichir le personnage et de rajouter de la complexité, de rajouter qui elle était en fait, mais dans les détails. Et puis la beauté, c'est dans les détails, je pense. Donc c'est comme ça que
oui.
On y est arrivé.
Tout à fait. On a réfléchi à quelle tenue elle aurait. Les jeans de l'époque avec, vous savez, c'était les années 90, donc c'était des jeans déchirés. Il y avait des moments où elle pouvait avoir une bourse avec ses ustensiles, ses outils de couture. Donc on s'est demandé comment elle pouvait porter ses aiguilles. Donc en l'occurrence, elle les porte dans la bouche. Il y avait beaucoup de petits éléments. Tu avais amené l'histoire de la tresse.
Ouais, la tresse. En fait, j'avais besoin de trouver tout mon langage corporel. Donc... Donc de mettre, je sais que j'ai beaucoup traîné dans les ateliers de couture pour le rôle, et chacune avait ses petites habitudes. Il y en avait qui mettaient les épingles à des endroits, je sais pas, sur l'épaule, et d'autres, je sais pas, moi je m'étais dit ce serait cool de l'avoir dans la bouche tout le temps en fait, comme un cure-dent quoi, et j'avais ça. Après il y avait tout ce qui était lié à la couture, et au-delà de la couture, il y avait tout ce qui était lié au personnage. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu une envie de me faire une natte là, parce que j'avais besoin qu'il y ait un truc spécial à elle, à Nejma, pour me sortir de moi, pour me détacher de moi, Lina, pardon. Et ouais, il y avait sa manière de s'habiller, de quel tissu elle aime, quelle couleur elle aime, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la beauté pour elle, quelles sont ses inspirations aussi finalement. Je sais qu'on a regardé beaucoup de défilés.
Oui.
Moi, je me suis tapé les défilés des maisons depuis je sais pas quelle année, depuis 80, Saint-Laurent, j'ai vu tous ces défilés. Enfin, et il s'agissait de trouver aussi de qui j'aurais pu être, en fait, qui Nejma aurait pu être. Est-ce que c'était une Coco Chanel? Est-ce que c'était une Saint Laurent? Est-ce que c'était je sais plus, mais enfin je. Est-ce que c'était une Christian Dior? Est-ce que par où elle était passée? Et, il s'avère que Saint Laurent, moi, m'a beaucoup inspirée, et Coco Chanel aussi, parce que c'était une des premières femmes. Mais ouais, voilà, fallait passer par là, fallait faire le vrai chemin que Nejma aurait fait. À l'époque, il y a Yasmina aussi qui nous a
beaucoup inspiré.
Qui est une créatrice algérienne.
Ouais. Et après, s'est posée la question du réalisme, hein, c'est-à-dire, effectivement, à cette époque-là, on disposait de quoi, on pouvait créer à base de quoi, on pouvait avoir une inspiration à quel endroit. Et donc, en fait, il y a eu toute cette collecte d'informations et de détails qui ont servi à nourrir la véracité du propos. En l'occurrence, on est parti du tissu qui est quelque chose d'assez symbolique, le haïk, qui est vraiment dans toutes les armoires des femmes, qui est plutôt bon marché, et donc de façon logique, c'est un personnage qui utilise ce tissu pour créer une collection de mode. Bien évidemment, il y a toute la symbolique derrière, puisque c'est un tissu blanc, c'est un tissu sacré, et puis c'est la tradition, et donc elle utilise cette tradition pour aller vers la modernité, puisqu'elle crée une collection qui va, on va dire, dénuder le corps des femmes, mais l'embellir aussi. Donc à chaque fois, il fallait se rattacher comme ça avec la réalité, l'authenticité du moment aussi dans nos recherches. Donc ça, c'était très... On avait un cadre, donc c'était intéressant.
Et Chérine, toi, du coup, t'as un rôle, en fait, qui est totalement différent pour le coup de celui de Nejma, parce que, genre, tu vois, nous, en tout cas, ce qu'on a trouvé, genre, hyper intéressant, c'était même la relation, tu vois, avec le mec, tu sais, où il y a ce truc un peu de... Ouais, pas de soumission, mais...
Enfin,
si, clairement, en fait. Si, de la soumission, et puis, tu sais, une sorte de détachement, et toute la relation amicale qu'elle tient avec Nejma. Toi, déjà, t'étais déjà, genre, aussi connue sur Instagram avant le...
Bah oui, c'est un peu grâce à ça, en fait, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux.
Et comment t'en es arrivée...
Ouais, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur YouTube.
Okay.
Grâce à ça, j'ai été repérée en Algérie par une boîte de com qui voulait faire, tu sais, en Algérie, il y a les khaymet pendant le Ramadan.
Et toi, t'as grandi en Algérie ou en France?
Oui, moi j'ai grandi en Algérie jusqu'au bac. Après, okay. je suis venue faire mes études ici. Et grâce à ça, donc, on m'a repérée pour faire des capsules quotidiennes, et je leur ai plu à l'image. Donc, on fait passer des castings pour la série. Et grâce à ça, donc, vu que j'ai eu après une expérience, en tout cas à la télévision, Mounia m'a contactée par Instagram, et en fait j'avais beaucoup de messages à cette époque-là, donc j'ai raté son message. Du coup, j'ai failli rater le rôle de ma vie. Et par la suite, en fait, il y avait une directrice de casting algérienne qui est en Algérie, donc qui a proposé mon profil, qui m'a contactée et qui m'a fait rencontrer Mounia. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré Lina, et on a commencé. Enfin, on a eu beaucoup moins de temps du coup pour travailler et développer Wasila. On a quand même essayé de lui trouver des caractéristiques un peu comme Lina, particulière, un passé, une histoire, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle est. Enfin, essayer de créer quelque chose. Et effectivement, moi je la vois comme un personnage assez fragile, qui a aussi sa part de force, mais qui est aussi fragile, qui a besoin un petit peu à cette période-là de sa vie d'être poussée, d'être entourée. Et bon, après, l'amour, on a tout fait, je pense, cette erreur de femme. Je pense, je la vois très rêveuse, je la vois très à fleur de peau, très romantique. Et elle est tombée sur quelqu'un en pensant que c'était de l'amour, alors qu'en réalité, elle a vite été rattrapée par autre chose. Mais pareil, elle a retrouvé son amie qui est revenue, qui l'a, malgré sa trahison, qui l'a accepté, qui l'a aidé à faire face à cette réalité. Et ensemble, c'était le plus fort du monde, quoi.
Et Là, c'est peut-être plus une question pour Lina. Toi, t'es née quand?
Moi, je suis née en 90.
En 90. Ouais. Donc, du coup, vous deux, en fait, vous avez vécu justement cette décennie noire. Toi, Lina, tu ne l'as pas vécu.
Si. Bah, moi, je suis née en 92. Mais moi, je suis. Après, je suis partie. Ouais, j'étais bébé.
Et justement, en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette époque-là de ma vie, je la connais uniquement de par des bribes de ce que mes parents ou mes grands-parents ont pu dire. Et du coup, je trouve que c'est archi fort, en fait, d'avoir réussi à raconter cette, une réalité, en fait, parmi d'autres, dans cette époque-là. Et je voulais savoir, par rapport à ce travail, en fait, de reconstruction, on va dire, de quoi vous êtes partie. Est-ce que vous êtes vraiment partie que de vos... de vos expériences personnelles ou de, des expériences de vos parents ou de, est-ce que vous êtes partie faire plus de documentation quoi, en vrai même?
Ouais, moi je me suis
énormément.
Je me suis quand même documentée, ça c'est évident. Et après, je... mais il y a plein de choses, hein. Il y a plein de livres, il y a plein de reportages finalement, même sur YouTube, il y a plein de documentaires de sur les massacres de Bentarha, de Raïs, il y a plein de choses en fait, hein, quand tu cherches bien. Et après, de toute façon, il y a tout ce que mes parents m'ont raconté, toute l'histoire que je connaissais, parce qu'au moins on m'en a toujours parlé. Et puis après, ce que Mounia avait comme souvenir, qui était hyper concret, net dans sa mémoire. Et puis, de toute façon, en Algérie, tout le monde a une histoire avec cette décennie noire. Donc en fait, sur le tournage, ce qu'on dit aussi depuis ce matin, mais sur le tournage, tout le monde avait son mot à dire finalement, mais pas parce que pas parce qu'il voulait prendre la parole pour prendre la parole, mais parce que tout le monde avait sa part de vérité à partager. Et tout le monde avait des anecdotes à raconter à chaque fois. Et moi, je trouve que c'est la force aussi de Mounia, c'est d'être toujours à l'écoute de n'importe qui, du chauffeur de bus comme de Ahmed Ben Issa, qui est un grand acteur algérien, comme du chef opérateur qui va donner son avis sur... Mais en fait, tout le monde faisait ce travail de mémoire. C'était comme si on avait quelque chose à restituer, à dire avec le plus de vérité possible. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas tombé dans la fausseté et qu'on est resté assez juste.
Moi, c'est pas complètement pareil. C'est-à-dire que je l'ai pas, même si j'étais en Algérie à cette époque-là, nous, on vivait à Oran. Et au niveau de... Ça s'appelait Bout de Fer. C'était pas loin de la base militaire aérienne. Donc, on était hyper protégés. Et j'ai découvert cette période, bien après, genre 10 ans après, quand j'avais 13-14 ans, à travers des copains qui me racontaient des histoires. Et une fois, je suis allée voir mon père. Je lui ai dit, mais... Je suis allée voir mon père en lui disant, mais papa, c'est quoi cette histoire en fait de terrorisme, il s'est passé quoi? Il m'a dit, mais ma fille, puis il m'a assise, puis il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, et c'est là que j'ai découvert ça. Et pareil, des histoires des copains qui ont perdu des gens, qui ont vu des gens se faire tuer, qui... mes parents aussi qui ont vécu très différemment, quand même, parce qu'ils étaient assez protégés, mais qui ont quand même vécu la peur, qui sont sortis, qui ont fait la fête jusqu'à pas d'heure, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'ils le font, et qui ont vécu leur meilleure vie finalement cette période-là, et puis aussi évidemment à travers mon lieu.
Oui, bah pour moi, je pense que Papicha, c'est un film qui a une portée historique. Et même s'il n'y a pas, autant de repères, de détails historiques, au moins, pour moi, niveau représentation, c'est le premier film qui m'a convaincue, qui m'a totalement bluffée, vraiment. Et j'avais une question concernant une scène, lorsque, dans un excès de rage et de folie, lorsque... Najma coupe ses cheveux. Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que c'était prémédité? Ou est-ce que ça c'est venu comme ça? Parce que moi aussi j'ai pété un câble, je me suis coupé les cheveux hyper court il y a peu de temps. Et j'ai compris l'importance que ça avait dans notre culture maghrébine, dans la part de féminité chez une femme au Maghreb. Et je voulais savoir si vous aviez conscience de la portée de cette scène ou non.
Oui, bien évidemment, cette scène n'est pas gratuite. C'est une scène qui arrive à un moment clé. C'est un moment où Najma veut en fait se faire du mal. C'est une scène où Najma, c'est une automutilation quelque part. C'est de la mutilation. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, décide de se faire du mal après avoir subi et après avoir provoqué le défilé et tout ce qui s'ensuit avec tout ce qu'on sait. C'est aussi un moment où Nejma effectivement coupe ses cheveux et coupe son rapport à la féminité. Oui, bien évidemment, c'est un rapport au féminin qu'elle rend en se coupant les cheveux. Mais c'est surtout un moment où Nejma en fait craque. C'est vraiment le seul moment où elle se fait vraiment du mal, parce qu'avant ça, il n'y a pas réellement de moment où elle explose, où elle utilise en fait tout ce qu'elle a vécu. C'est le moment clé où elle s'en veut et elle se punit.
Ouais, parce qu'elle s'en veut jamais en fait, elle doute jamais, tu vois, elle doute pas, elle va y arriver, elle a aucun doute et c'est ça qui la tient. Et ce moment là ça tu vois, ça la renvoie à sa naïveté, ça la renvoie à son jeune âge finalement, ça la renvoie à tout ce qu'elle est, toute la jeune
en fait,
fille qu'elle est,
peu,
tu vois.
C'est un peu la fin d'une période et c'est marqué
ça.
Par cette
bah c'est ça, je suis d'accord. Je pense qu'après ça, elle devient plus adulte.
Plus mature.
Plus mature, plus réfléchie, peut-être plus... Il y a un truc qui se passe, ouais. Mais parce qu'il faut se brûler les ailes, c'est comme quand tu dis à un enfant, touche pas, c'est brûlant, il va y aller quand même.
Ouais.
C'est la même chose.
Et techniquement aussi, c'était pas...
Non, techniquement, c'était dur, on avait qu'une crise.
C'était très très dur, parce qu'il fallait, c'était la pression de cette séquence, on se disait, voilà, si je me rate, c'est fini.
Mais c'est vrai que c'est un moment de rupture, hein, parce que c'est un moment où Nejma accepte aussi le deuil de sa sœur, puisque la scène d'après, en fait, elle est libérée quelque part. Elle est libérée puisqu'elle rejoint la tombe de sa sœur. C'est la première fois qu'on la voit pleurer sur la tombe de sa sœur et planter cette fleur symbolique de sa sœur. Donc c'est vrai que ça marque une rupture.
Dans notre podcast, à chaque fois, en fait, à la fin, on a une sorte de catégorie qui s'appelle les choufs. Et en fait, ouais, c'est des recommandations qu'on fait. Est-ce que vous avez des recommandations à faire en particulier? Si ce n'est voir Papy Chat, parce que ça, c'est obvious.
Mais peu importe quoi.
Peu importe. Un livre, un film,
mais
un
rapport
personne,
avec le film,
un Insta, ce que tu veux.
Ah, ce que je veux.
Oh, c'est cool, ça. Attends.
Ça peut être chauffe, mais ça peut être... Ça peut être...
Ikhara.
Ouais, ça peut être Ikhara, ça peut être... Lartstalk, ce que tu veux, genre.
Attends, chauffe, c'est cool. Attends, laisse-nous 2 minutes.
Ça peut être une amie.
Le dernier truc qui t'a marqué.
Ouais.
Alors moi, je veux bien démarrer. Chauffe, le livre qui s'appelle Butterfly, qui est le parcours d'une nageuse syrienne qui va traverser la mer pour aller aux Jeux Olympiques de natation. Et ça s'appelle donc Butterfly. Okay. Et c'est de Yousra.
Très bien.
Moi, c'est Chouf, Mindhunter, une série sur Netflix qui parle de la création de la section d'études du comportement des profilers au FBI. Et c'est génial parce que je suis une passionnée de serial killer. Donc j'ai trouvé ça absolument incroyable parce qu'ils sont basés sur les réels. Non, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Sur les vrais serial killers et c'est vachement. C'est hyper intéressant.
Non, mais moi, je sèche complet là. C'est hyper bien.
Non, mais sérieux, tu regardes.
Il y a trop de choses.
Le dernier film que t'as regardé.
Mais je sais plus. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Ah non, c'était nul le dernier film que j'ai regardé.
Ah bah, chauffe les sauvages.
Chauffe pas.
Ouais, mais chauffe les sauvages, ça fait trop genre chauffe toi-même.
Bah oui. Bah,
tu fais dans les sauvages.
Mais tu fais la promo en même temps.
Bah chauffe les sauvages, voilà.
Tu fais Papicha ou chauffe les sauvages?
Ok. Bah écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous, c'était vraiment cool.
Bah ouais, merci les filles.
La série est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Kauter, Sidox, Zied, Amel, Nesrine et Théophile. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver en barre d'infos ou sur notre site www.lateille.fr. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud en tapant Lateille, LATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et Twitter, @lateillepodcast. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.